9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain les 10 milliards. La population mondiale devrait augmenter de 2 milliards au cours des 30 prochaines années, vient de nous dire l'ONU, pour atteindre les 10 milliards en 2050. 10 milliards d'humains dotés d'un cerveau programmé pour la survie de l'espèce, mais aussi pour sa satisfaction immédiate. Un cerveau qui réclame toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir avec un minimum d'effort. C'est gravé dans nos neurones. C'est ce bug humain qui nous pousse à détruire la planète alors que notre raison voudrait l'en empêcher, dont va venir nous parler le docteur en neurosciences Sébastien Boller. Demain, la guerre entre les États-Unis et l'Iran. À quoi joue Donald Trump? À qui profitent les attaques de pétroliers dans le Golfe? Les réponses de l'avocat et essayiste Ardavan Amiraslani à suivre. Demain, le tableau le plus cher de France, une toile attribuée au Caravage, sera mise aux enchères jeudi à Toulouse, estimée à plus de 100 millions d'euros. Judith décapitant Holoferne avait été découverte en 2014 dans un grenier sous la crasse et les vieux matelas. L'expert en tableau ancien Eric Turquin, qui vit depuis 5 ans avec Judith, qui l'a fait nettoyer, authentifier et la montrer au monde entier, sera avec nous dans 20 minutes. Enfin, demain, vous continuerez à découvrir l'œuvre de Dora Maar au musée Pompidou pour vérifier qu'elle était bien plus que la muse de Picasso. Brigitte Benkemoun, tombée par hasard sur son agenda, la raconte dans un livre « Je suis le carnet de Dora Maar ».
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Après-demain, mardi, l'Assemblée nationale va commencer l'examen du projet de loi énergie-climat avec un article 1 voté en commission il y a quelques jours par des députés de tous bords qui décrète l'urgence écologique et climatique. Mais cette urgence s'arrête, non pas aux portes du pouvoir, mais aux portes de notre striatum, une structure nerveuse située sous le cortex qui joue un rôle clé dans nos décisions et nos motivations et qui fait que notre cerveau n'est pas écolo. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Patrick Cohen.
Docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho et auteur du bug humain chez Robert Laffont. C'est à vous qu'on doit ce coup de projecteur sur ce maudit striatum. Enfin non, pas maudit, parce que c'est à lui qu'on doit la survie de l'espèce humaine.
Oui, alors le striatum, c'est une structure très profonde de notre cerveau qui existait déjà il y a des millions d'années chez nos ancêtres primates. Et qui nous donne nos motivations, nos désirs profonds, qui nous fait rechercher un certain nombre de satisfactions, parce que c'est ce qui nous a permis de survivre pendant tout ce temps. Vous prenez des hommes du paléolithique, par exemple dans la savane, le but premier c'est de survivre en trouvant à manger, en se reproduisant, voilà. Et puis en essayant de gagner des places dans la hiérarchie du groupe de primates. Donc tout ça, à chaque fois que vous arriviez soit à manger, soit à vous reproduire, soit à grimper dans l'échelle sociale dans la savane, cette partie de votre cerveau, qui était déjà présente depuis très longtemps, vous récompensait avec du plaisir, avec une molécule qui s'appelle la dopamine.
Donc ce cerveau, la plus incroyable merveille de technologie qui ait jamais vu le jour, il a été programmé en un temps où les ressources naturelles étaient rares. Nous n'étions pas programmés à l'abondance, écrivez-vous.
Eh oui, parce que quand vous trouviez une proie dans la savane au paléolithique, vous aviez tout intérêt à en manger autant que possible et surtout sans vous limiter. Ouais. Parce que si vous vous limitiez, vous ne savez pas quand vous alliez en trouver une autre, peut-être dans des semaines, peut-être dans des mois. Donc survivre, c'était être capable de faire le plein dès que l'occasion se présentait.
Nous n'étions pas programmés donc à l'abondance, ni programmés pour se soucier de l'avenir, puisque pour le striatum, le futur ne compte pas. La priorité est à la satisfaction immédiate, au plaisir instantané.
Et oui, alors évidemment, aujourd'hui, on est entouré de systèmes industriels qui nous donnent de la nourriture dès qu'on le souhaite. Hein. L'agriculture intensive, l'élevage en batterie, ça nous donne à manger sans limite. Mais effectivement, vous l'avez dit, on n'est pas fait pour se limiter. Donc, on prend tout ce qu'on veut. Les courbes d'obésité sont en augmentation. Mmh. On meurt plus aujourd'hui de l'obésité et de la suralimentation que de la faim dans le monde. Et quand on se dit dans 30 ans, ça va poser des problèmes parce que cette activité génère énormément de gaz à effet de serre. Eh bien là, c'est la partie intellectuelle, le cortex,
c'est le cortex ouais,
qui se dit « Ah oui, il y aura des problèmes », qui regarde les courbes, qui se dit « C'est catastrophique ». Mais la partie qui nous fait agir concrètement, qui nous donne du plaisir quand on choisit nos actes au quotidien, c'est le striatum. Et on s'est aperçu que les cellules nerveuses dans ce striatum sont complètement insensibles à la temporalité lointaine. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre une bonne côte de bœuf ou des connexions sans limite sur internet ou des habits de marque tous les 6 mois, mais des choses dans l'instant, donc pleines de plaisir instantané, et la prise en compte du futur, 30 ans, 40 ans, le striatum, lui, choisit l'instant systématiquement. Ouais. Il est aveugle au futur. Ouais. Donc, on est incapable, malgré notre prise de conscience, entre guillemets, de le transposer en acte concret.
Alors, évidemment, ça, c'est des généralités. C'est quand même différent selon... d'intensité selon les individus et les cultures, Sébastien Boller.
Tout à fait. Oui, oui, on garde la capacité quand même de remodeler un petit peu notre cerveau. Il y a déjà des personnes qui transposent leur conscience intellectuelle en désir d'action vertueux dans l'instant. Mais quand on regarde quand même les grandes courbes d'évolution du monde, on se rend compte que ça obéit à ces grands besoins primaires.
Et du coup, le portrait robot que vous dressez de l'humain du 21e siècle est effrayant. Un individu en surpoids, se déplaçant peu, travaillant de moins en moins, se distrayant par les jeux vidéo sans se lever de son siège, se gavant d'informations sur les écrans, faisant une forte consommation de pornographie virtuelle, on va en parler, et vérifiant toutes les 10 minutes si l'image qu'il envoie au monde entier par les moyens de télécommunication numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait. Ça, c'est la logique du striatum poussé au maximum, c'est ça ?
Oui, voilà. Si on laisse le striatum aux commandes, c'est ce qu'il fait. Mais je crois que justement, la situation catastrophique où on se trouve, et on va rentrer dans une période qui va nous montrer que la planète nous envoie des coups de boutoir quand même de plus en plus prononcés, nous montre qu'en fait, on s'est entouré d'un système de production, un système industriel, économique, politique, qui est fait pour satisfaire ses besoins primitifs. Du paléolithique, alors qu'on aurait pu créer un système qui le contrebalance.
Sébastien Boller, on doit marquer une pause. On vous retrouve après 1 minute 30 de temps de cerveau disponible.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1. De 9h à 10h le dimanche, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et avec Sébastien Boller qui signe un livre aussi éclairant qu'inquiétant sur nos contradictions face au dérèglement climatique, le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Un cerveau qui nous pousse donc à la satisfaction immédiate et au moindre effort, on l'a dit, pour la nourriture, mais aussi pour le sexe. Et là, même si ça peut paraître... tiré par les poils, vous nous expliquez très sérieusement le rapport entre le sexe et le climat, entre le réchauffement des corps et celui de l'atmosphère. Le rapport, Sébastien Boller, c'est le porno, ce sont les vidéos sur Internet.
Mais oui, aujourd'hui, on paye la rançon de ce désir ancestral de sexe qui n'a évidemment pas posé de problème dans les aires les plus reculées de l'humanité.
Et qui a permis de reproduire l'humanité. Exactement, oui.
Mais vous savez que la sélection naturelle nous dicte un comportement, nous dit il faut avoir le plus de partenaires sexuels possible parce qu'il faut faire le plus de copies possibles de notre ADN. C'est ça qui fait qu'on transmet ces gènes. Alors aujourd'hui, le cortex qui est intelligent a inventé plein de choses. Il a inventé notamment Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques. Et le résultat, c'est que la partie pulsionnelle très ancienne, le striatum qui en veut toujours plus, se met à surfer. Et donc, c'est les sites pornographiques. On clique. Et le résultat aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 137 milliards de vidéos pornographiques visionnées à l'année par l'humanité.
35% des vidéos visionnées sur Internet sont pornographiques. Or, Internet produit de la chaleur.
Et produit, oui, de l'émission de gaz à effet de serre et de la chaleur, ça a dépassé le trafic aérien. Donc là, sans le savoir, en assouvissant ce besoin très ancien, on participe à notre propre bouillonnement futur.
Une requête d'information sur Google, qui en totalise 5 milliards par jour, produit la même quantité de chaleur que le fait de porter à ébullition une demi-tasse à café. Ce qui vous fait dire en raccourci, connaître la météo à Rennes, réchauffe la météo à Rennes.
C'est ça le drame, le piège, c'est qu'on ne se rend pas compte. La dématérialisation de tous ces gestes du quotidien n'est pas une dématérialisation. Quand on clique sur sa souris, on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Mais derrière, il y a des serveurs qui tournent et l'impact aujourd'hui est gigantesque.
Alors, comment empêcher tout cela, Sébastien Boller ? C'est la dernière partie de votre livre. On a donc un cortex qui réfléchit, qui est raisonnable, qui se dit qu'il faut agir pour la planète et un striatum... insatiable qui a envie de profiter de la vie, je résume, voilà. C'est à peu près ça. Bon, comment en sortir ? On sent que vous forcez un peu votre pessimisme dans cette partie en expliquant qu'on peut aussi avoir de la satisfaction dans le don, dans l'altruisme.
Oui, voilà. Parce
c'est ce qui peut nous sauver.
Je dis, il y a un diagnostic sur le fonctionnement de notre cerveau, autant s'en servir pour trouver des solutions. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas vivre sans cette fameuse dopamine qui nous donne du plaisir. Donc la question, c'est comment obtenir de la dopamine, mais par des moyens qui ne détruiraient pas notre futur et notre environnement. Et on s'est aperçu dans des expériences menées à l'université de Zurich il y a un peu plus d'un an, que effectivement, le fait de partager peut faire libérer de la dopamine. Mais dans les expériences qui ont été menées, c'était quelque chose qui était observé chez les femmes et pas chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes, vous leur donnez une somme d'argent, vous leur dites vous pouvez partager l'argent ou le garder pour vous. En général, ils le gardent pour eux et ils libèrent de la dopamine dans leur striatum. C'est conforme au modèle. Mais par contre, les femmes, effectivement, dans une majorité de cas, elles choisissent de partager, donner une partie de l'argent. Et on voit qu'elles libèrent aussi de la dopamine dans leur striatum.
Vous êtes sûr que c'est une différence physiologique et pas culturelle ?
Alors, justement, c'est principalement apparemment une différence culturelle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans toutes les familles de différentes civilisations à la surface de la Terre, quand on regarde comment se fait l'éducation dans les familles, bien souvent, une petite fille, on la félicite quand elle partage, quand elle fait preuve d'empathie, d'altruisme. On lui dit c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on la félicite ? Ben, on lui donne du statut social. Or, c'est une des grandes motivations du striatum, on en a moins parlé, c'est le désir de se sentir important.
Oui.
Donc on peut faire que quelqu'un se sent important si on valorise le comportement d'altruisme. Et à ce moment-là, on lui fait libérer de la dopamine, ça veut dire que c'est lié à l'éducation, ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre dès le plus jeune âge, pas seulement pour les filles, aussi pour les garçons, ça veut dire les professeurs, les parents, les journalistes, la sphère publique, la sphère politique, ça doit être la nouvelle norme sociale. Et à ce moment-là, on pourrait créer vraiment des générations d'accros à l'altruisme. Mais la norme sociale, faut la bouger.
Il faut la bouger et il faut muscler le cortex, si je puis dire, par une éducation, un rappel, des informations utiles, des intervenants pertinents, puisque c'est une bataille que vous présentez dans ce livre entre le cortex et le striatum.
Voilà, exactement. Ce cortex, il va falloir le muscler aussi par de la conscience. Il n'est pas capable seulement de faire des écrans à plasma ou des sites porno. Il peut aussi faire de la conscience du simple fait de manger quand on jouit d'un plaisir, de prendre un peu plus de temps, retrouver le temps long, et on arrivera à ce moment-là à avoir autant de plaisir avec moins de stimulation, moins de matière première.
Et vous donnez l'exemple du raisin sec qu'on peut...
Oui, le raisin sec avec lequel on peut faire presque un repas à condition de développer la pleine conscience de notre cortex. Ça se fait déjà dans certains groupes de thérapie pour le surpoids à l'hôpital Sainte-Anne avec Christophe André notamment.
Merci beaucoup Sébastien Boller. Le débat à l'Assemblée sur la loi énergie-climat, texte important à partir de mardi qu'on va suivre, et votre livre Le bug humain chez Robert Laffont. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, l'avocat franco-iranien Ardavan Amiraslani, ce qui se joue en ce moment entre l'Iran et les États-Unis.
Europe 1, c'est arrivé demain. Europe 1,
c'est arrivé demain, se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Ardavan Amiraslani.
Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité.
Maître Amiraslani, le grand public vous connaît comme le conseil de Laetitia Hallyday, mais ce n'est pas l'avocat que j'ai invité, c'est l'observateur franco-iranien d'une situation qui paraît aujourd'hui explosive et dont voici les deux derniers épisodes. Un tweet de Donald Trump qui annonce de nouvelles sanctions majeures contre l'Iran dès lundi, après qu'il ait annulé des frappes in extremis, et à Téhéran, l'état-major militaire qui menace d'un embrasement régional en cas d'attaque américaine. Est-ce que tout cela, c'est du théâtre ou il y a un risque sérieux d'un conflit majeur ?
Je pense qu'il y a réellement un véritable risque. Il n'y a pas de canal diplomatique qui fonctionne correctement entre Téhéran et Washington. N'importe quel dérapage peut aboutir à un embrasement. Aujourd'hui, l'Iran est isolé. L'Iran est dans une situation économique d'une délicatesse totale. L'économie est en ruine.
À cause des sanctions, pour beaucoup.
Des sanctions américaines. L'Iran a du mal à vendre son pétrole. L'inflation explose. La monnaie iranienne est dévaluée de plus de 60% par rapport à il y a 12 mois. Les Iraniens sont à cran. Et ils attribuent leur détresse actuelle uniquement à Trump à Washington.
Donc ça favorise évidemment les éléments les plus conservateurs du régime ?
Absolument. Vous avez dans la région également un certain nombre d'autres pays qui ont intérêt à ce que les États-Unis engagent l'Iran militairement. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ces deux pays ont également besoin de changer d'image du fait de la détresse de la situation du peuple yéménite qu'ils ont causée, cette guerre abominable qui a causé des dizaines de milliers de morts civiles, du fait du rapport des Nations Unies qui vient de sortir sur l'affaire Khashoggi. On apprend qu'il a été coupé en morceaux vivant. Donc ces pays-là ont intérêt à ce que la concentration des médias change de spectre et se concentre sur l'Iran. À Washington également, vous avez toute une série de personnes qui sont fondamentalement partisanes d'un changement de régime en Iran. Le secrétaire aux affaires étrangères, Pompeo, le conseiller national, Bolton, l'avocat Giuliani, ce sont des gens qui ouvertement militent pour un changement de régime en Iran.
Mais la main de Donald Trump a tremblé et au dernier moment, il a renoncé aux frappes auxquelles il avait lui-même ordonné quelques minutes auparavant.
Je ne sais pas si sa main a tremblé. Je pense que la sagesse a prévalu. Dans le discours officiel qu'il déploie, il explique que pour le cas où les Américains avaient attaqué des cibles militaires en Iran, ça aurait entraîné à peu près 150 morts. Et que c'est disproportionné par rapport à la descente du drone américain. Drone qui d'ailleurs était de la taille d'un jet et qui était valorisé prix catalogue à 130 millions de dollars. Je pense que les Américains, les conseillers militaires du Pentagone, ont clairement dit à Trump qu'ils ont affaire à un pouvoir qui n'a rien à perdre et qu'on ne peut pas simplement espérer avec quelques frappes mesurées, entre guillemets, qu'on sera quitte. Les Iraniens vont surréagir. Et ils peuvent surréagir non simplement militairement face à la présence américaine dans la région. Il y a 55 000 soldats américains dans une trentaine de bases tout autour de l'Iran. Mais l'Iran, sa puissance réelle, vient du fait que ce pays dispose également des alliés de taille dans toute la région. Regardez par exemple les 300 000 Hashd al-Shaabi, les forces mobilisées en Irak, les 150 000 centurions alaouites en Syrie, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Et puis surtout, l'Amérique se dit, si cette attaque devait avoir lieu, même tactique, même stratégie contre les Iraniens, l'Amérique serait seule. Les Chinois n'allaient pas accompagner Washington, les Russes non plus, et les Européens non plus. Donc la sagesse a prévalu et Trump a décidé de ne pas y aller.
Des Iraniens dont vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine, non pas le régime lui-même, mais peut-être des éléments incontrôlés, conservateurs, etc., à l'origine des attaques de pétroliers dans le Golfe, élément déclencheur de la crise. J'ai lu ça sur votre blog, Maître Amir Hassani.
Merci de m'avoir remarqué. C'est fort possible. L'État iranien, je ne pense pas. Malgré le fait que ça soit une théocratie, la seule théocratie au monde, ce sont des gens quand même qui sont plus ou moins rationnels. Mais on ne peut pas exclure cette fameuse notion de rogue elements, des éléments incontrôlés, qui aient pu faire ça pour empêcher que le dialogue entre Téhéran et Washington puisse prospérer. S'il est vrai que les Iraniens ne discutent pas ouvertement avec les Américains, la réalité est que les discussions ont cours avec force. Le premier ministre japonais qui s'est rendu en Iran, une première en 40 ans depuis la victoire de la révolution iranienne. Le ministre des Affaires étrangères allemand s'y est rendu le lendemain. Macron, le président français, a envoyé un conseiller diplomatique à Téhéran pour essayer, s'il voulait, d'entamer le dialogue entre les Iraniens et les Américains. Mais c'est possible. Je ne le pense pas cependant que ce soit des éléments incontrôlés iraniens. Je pense d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques militaires français autrement plus sachants que moi sur la question des milles est écartée, les torpilles écartées, puisqu'on a constaté que si vous voulez que les frappes avaient touché les bâtiments à un mètre et demi au-dessus du niveau de la mer. Donc les experts pensent qu'il s'agit plutôt de frappes de drones ou de roquettes. Mais qu'est-ce que ça change? In fine, il faut toujours se dire à qui profite le crime. C'est un principe de base de criminologie. Ça ne profite pas aux Iraniens. Ça profite en particulier aux Saoudiens, aux Émiratis, qui ont un historique, si vous voulez, avoir recours à des mercenaires pour ce type d'opération.
Encore un mot sur la situation et sur la position américaine. Vous avez souligné à l'instant que le régime des Mollahs en Iran était malgré tout un régime plutôt rationnel, il est face à une forme d'irrationalité qui est celle de l'Amérique et l'administration américaine de Donald Trump, qui réclame aujourd'hui un nouvel accord avec le même objectif, c'est-à-dire le renoncement au nucléaire, que l'accord originel, l'accord de Vienne, qui prévoyait cela, qui a été rompu par les Américains et dont l'AIEA nous dit que il a été respecté.
Les Iraniens ont affaire effectivement à un président assez erratique dans son comportement, mais il y a heureusement aux États-Unis ce que les Américains appellent le « deep state », l'état profond. Ce sont ces experts-là qui ont empêché un dérapage, un embrasement. Les Iraniens, quand ils regardent la question nucléaire, se sentent mal. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont abandonné 100 milliards de dollars d'investissement dans le secteur nucléaire. Ils ont versé du béton dans la centrale à eau lourde de la ville d'Arak, débranché 13 000 centrifugeuses sur les 14 000 qu'ils possédaient, et fait en sorte à ce que 100 kg d'uranium enrichi à 20% se transfèrent hors de leurs frontières en Russie. En échange, ils espéraient, c'était le deal si j'ose dire, obtenir le droit de librement vendre leur pétrole, de pouvoir interagir avec les entreprises internationales, de pouvoir réintégrer le système financier international. Il n'en a rien été. L'accord est mort-né de par le maintien des sanctions américaines qui frappaient l'Iran pour des considérations de droits de l'homme et un soutien à l'égoterrorisme. Donc les Iraniens n'ont rien obtenu. Avec le retrait américain le 8 mai 2018, eh bien, les quelques entreprises qui avaient investi en Iran, elles se sont retirées. Et les Iraniens se disent aujourd'hui pourquoi? Pour que l'Amérique puisse de nouveau arriver et modifier totalement la position iranienne. Est-ce que les États-Unis demandent aujourd'hui, malgré le respect par l'Iran, à travers 15 rapports successifs de l'AIEA qui a constaté que l'Iran avait respecté ses engagements et de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, les Américains arrivent de nouveau à la charge. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Que l'Iran abandonne définitivement toute forme d'enrichissement de l'uranium, même civil. Donc l'Iran serait en fait le seul pays au monde qui n'aurait pas le droit d'avoir droit à l'enrichissement. Et arrêter leur programme de missiles balistiques, qui est la seule arme dont disposent les Iraniens. Rappelez-vous, au titre même de cet accord de 14 juillet 2015, l'Iran est sous embargo international au titre des missiles pendant 8 ans à compter de 2015 et sur les armes conventionnelles pendant 5 ans. Donc comment voulez-vous que ce pays-là puisse se protéger et se sente entouré par beaucoup de gens qui ne leur veulent pas forcément du bien.
Merci beaucoup Ardavan Amir Aslani. On peut vous lire sur votre blog amir-aslani.com.
Europe 1.
À suivre, l'homme qui vit avec Judith depuis 5 ans, mais Judith devrait le quitter jeudi prochain pour plusieurs dizaines de millions d'euros. On parle d'une toile du Caravage et d'une vente aux enchères qui pourrait entrer dans le Guinness Book avec l'expert Éric Turquin.
Europe 1. 9h-10h. C'est arrivé demain. Europe 1.
Comme chaque dimanche, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Le sang gicle du cou du malheureux général Holofernes, tandis que Judith tient la lame devant la servante Abra, tableau effrayant et extraordinaire, chef-d'œuvre attribué au Caravage, perdu de vue depuis 1617, retrouvé dans un grenier toulousain il y a 5 ans au milieu de la crasse et des vieux matelas par le commissaire-priseur Marc Labarbe, celui-là même qui tiendra le marteau jeudi prochain à la Halle aux Grains de Toulouse pour une vente aux enchères qui devrait être celle de l'année en France, peut-être celle de la décennie, avec une estimation qui dépasse les 100 millions d'euros. Bonjour Éric Turquin. Bonjour, expert réputé en tableau ancien, c'est vous que Marc Labarbe appelle en premier après sa trouvaille. À ce moment-là, vous y croyez, vous, au mythe de la toile de maître enfouie sous la poussière d'une cave ou d'un grenier ?
Oui, j'y crois parce que c'est notre travail d'expert, en fait. Ça paraît tout à fait extraordinaire, mais une bonne partie des tableaux que nous expertisons viennent effectivement de caves, de greniers, de l'escalier de service, de la chambre de la bonne, rarement du salon du patron.
Oui, mais ce n'est pas des Caravages.
Non, ce ne sont pas des Caravages, mais enfin, on trouve des choses importantes et il y a encore beaucoup de Caravages à trouver en France.
Ah bon, vous pensez à cela ?
Ah, je crois que mes confrères, mes concurrents devraient travailler beaucoup plus. Ils devraient aller dans les greniers, aller dans les chambres de bonne, chercher. Oui, il en reste encore.
Parce que la particularité de Caravage, c'est justement d'avoir très peu de toiles répertoriées, 64 dans le monde, donc ce serait la 65e. Il y en a, je crois, 5 en France, 3 exposés au Louvre. C'est extrêmement peu, évidemment.
Caravage est un artiste rare aujourd'hui, mais qui a dû produire beaucoup plus que nous ne pensons, d'abord. C'est un artiste qui est passé complètement à la trappe pendant 300 ans, qu'on a complètement oublié, et qui n'a été redécouvert qu'en 1951. Mmh. Donc pendant 300 ans, ces tableaux ne valaient rien. Quand les choses ne valent rien, vous en perdez la trace, ils disparaissent.
Et c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de Caravage répertoriés, donc que les experts italiens, notamment, se sont montrés très, très sceptiques au début et pour certains encore maintenant, face à la toile que vous exposiez, Éric Turquin.
Écoutez, ils se sont montrés surtout sceptiques au début. Ils sont moins sceptiques maintenant. Tous les éléments que nous avons pu apporter sur la provenance du tableau, les éléments de comparaison que nous avons pu mettre dans le catalogue et dans le site dédié thetoulousecaravaggio.com apportent tout de même des éléments. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup... Les gens qui sont... opposés sont devenus sceptiques. Ceux qui étaient sceptiques sont de notre côté.
Oui, ces experts pensaient que c'était l'œuvre d'un copiste flamand, Finson.
Louis Finson, qui était le premier propriétaire du tableau, était aussi un peintre. Voilà. Et la tentation, c'était de se dire... en fait, notre tableau est un tableau extraordinaire. Ouais. Il est d'une qualité très nouvelle pour Caravage, qui est un artiste qui se renouvelle tous les ans. Ouais. Et c'est ça qui le rend difficile à regarder.
Il a
pour
deux particularités.
De
il ne signe pas ses toiles, et en plus, il se renouvelle de toile en toile. Il a des façons différentes de faire. Ce que vous avez mis à jour, notamment, Éric Turquin, c'est l'existence de repentir, c'est-à-dire d'esquisses et de corrections sous la peinture, ce que ne fait pas un copiste.
Mais non, pour bien comprendre, un copiste, ça fait une dictée. Un artiste, un créateur, ça fait un devoir sur table. Donc ça va rayer un mot, ça va remplacer vert par bleu. Alors qu'un copiste, il va changer une virgule, il va mettre un S ou un petit accent, mais c'est tout. Là, il y a des changements structurels, des changements de création. Par exemple, Judith, à l'origine, regardait Holofernes, ce qui est logique, elle regardait ce qu'elle faisait. Et ensuite, le peintre, pour donner plus de force à son tableau, d'abord, il l'a habillé en noir, et puis ensuite, elle nous regarde. Et son regard vient nous percuter, elle nous fait rentrer dans la toile.
Il a changé la direction du regard de Judith, et ça, vous l'avez vu en faisant... radiographier cette toile, mais comme la toile est de de grande taille, 1m44 sur 1m73, hein, c'est ça ? Vous êtes allé frapper à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort ?
Mais en fait, nous utilisons très souvent la radio dans notre travail. C'est très simple, on prend le tableau et on va chez le radiologue du coin. Mais le radiologue du coin, Monsieur Cohen, il a une table de radio qu'à votre taille.
Il fait les fémurs ou les...
Voilà, voilà. et en fait, pour un tableau qui faisait 1m50 de large, c'était compliqué. Et c'est Stéphane Pinta, mon bras droit, qui a eu l'idée d'aller à la clinique vétérinaire. Et il est passé, effectivement, entre un cheval et un cochon.
Et voilà, donc l'appareil pour radiographier les chevaux et les cochons a donc servi à percer le secret d'un chef-d'œuvre de l'art italien. Autre anecdote, Éric Turquin, cette toile, vous l'avez gardée près d'un an et demi dans votre chambre à coucher.
Oui, en fait, dans notre chambre à coucher, parce que je savais que dès que nous prononcions le nom de Caravage, le monde allait nous tomber dessus. Je ne voulais pas gâcher 40 ans de travail et de réputation en me faisant allumer. Donc, je voulais avoir des biscuits pour la course. Donc, je voulais d'abord être sûr de notre avis à nous. Nous avons fait toutes les analyses techniques et tout ça, ça pouvait se faire que dans le plus grand secret. Et le secret a été bien gardé puisque personne, pendant 2 ans, n'a été au courant de la découverte de ce tableau.
Sauf Madame Turquin qui a bien supporté ce vis-à-vis parce que c'est quand même une décapitation.
Oui, mais j'ai fait de gros efforts pour ne pas ressembler à Holoferne. Vous voyez, Holoferne, vous disiez de parler tout à l'heure d'un malheureux général.
Oui.
Ce n'est pas du tout un malheureux général, c'est un affreux.
Ah oui.
C'est un affreux qui détruit tout sur son passage,
qui
tue les hommes, on ne nous dit pas ce qu'il fait aux femmes, on dit qu'il coupe les arbres sacrés. C'est une brute épaisse. Elle débarrasse le monde, elle sauve son peuple, Judith.
Bon, alors ce tableau exceptionnel, le tableau d'une vie, votre vie, Éric Turquin, écrivez-vous dans le catalogue de la vente. Il sera mis à prix jeudi prochain à Toulouse à 30 millions d'euros, mais vous en espérez beaucoup plus, au-delà des 100 millions.
Non, beaucoup plus non. À partir de 40 millions, je suis content.
Ah bon ?
Oui, il n'y a pas de référence en fait. Aucun tableau de cet artiste n'est jamais passé en vente. Donc, qu'est-ce qui sait ce que ça vaut ? Moi, je ne sais pas. Je pense que si un tableau de Rembrandt, qui est un artiste beaucoup moins rare et beaucoup moins important, beaucoup moins révolutionnaire que Caravage vaut 165 millions, à 100 millions, nous serions bon marché. Mais écoutez, le marché va trancher. Les clients de Marc Labarbe lui ont fait confiance. Il a dit qu'il commencerait les enchères à 30 millions. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il y aura des enchères. Donc, nous verrons.
L'acheteur ne sera pas un musée français. Pour mémoire, le budget annuel du Louvre pour ses acquisitions, c'est 8 millions d'euros. Donc, à peu près 5% de l'estimation de ce Judith et Holoferne. Vous aurez un acheteur, Éric Turquin ?
C'est surtout que, si vous voulez, les musées français sont déjà très équipés en Caravage. Le Louvre a 3 grands tableaux du Caravage, qui sont des tableaux majeurs.
Il y en a un à Nancy.
Il y en a un musée de Nancy, et surtout, il y a un des plus beaux tableaux de l'artiste qui est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Acheter un 6e Caravage pour des dizaines de millions d'euros aujourd'hui, je pense que, alors qu'on a nous n'avons toujours pas de Velázquez au Louvre, ça paraissait un petit peu curieux.
Aurez-vous un acheteur ?
Oui, j'aurai un acheteur. Et je me suis donné beaucoup de mal pour ça. Marc Labarbe et moi, nous sommes allés à Londres présenter notre tableau pendant 10 jours. Nous sommes allés ensuite à New York présenter le tableau dans une des plus grandes galeries de cette ville, où le tableau est resté pendant 15 jours pour que tous les musées américains puissent venir le voir. Oui, nous n'aurons pas un acheteur, nous aurons des acheteurs.
Des acheteurs, acheteurs privés ou musées étrangers, potentiellement.
Écoutez, une scène d'égorgement, c'est pas forcément un tableau pour une salle à manger, donc les gens ne partagent pas cette approche. Donc je pense que ce tableau ira dans un musée, et pour une fois, je le souhaite. En général, je me bats pour que les tableaux restent chez des privés, pour que d'abord mes enfants, mes petits-enfants ou ceux de mes confrères aient encore quelque chose à vendre, et pour faire vivre le marché. Mais celui-là, j'aimerais le voir arriver dans un musée. Et dans un grand musée.
Donc dans la chambre à coucher d'Éric Turquin, mais pas dans la salle à manger d'un acheteur privé. Et Judith va quitter votre vie. Après 5 ans.
Judith va rester dans ma vie pour très longtemps.
Merci.
Parce que c'est long, 5 ans.
Merci beaucoup Éric Turquin. La vente aux enchères à la Halle au Grain de Toulouse. Jeudi prochain vers 18h je crois.
À 18h.
À 18h, merci beaucoup.
Europe 1.
Et dans un instant, une autre histoire d'art d'Oramar racontée par son agenda et par Brigitte Bettkewoon.
Europe 1, c'est arrivé demain. Europe 1.
Jusqu'à 10h sur Europe 1, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain.
Qui était Dora Maar ? Le profane a au moins entendu parler d'un célèbre portrait signé Picasso. Il sait que cette dame a été sa compagne, puis sa muse abandonnée que cette rupture faillit rendre folle. Mais Dora Maar fut bien plus que cela, une artiste singulière, à qui le Centre Pompidou consacre une vaste rétrospective, un peu plus de 20 ans après sa mort, avec ses photos de mode, ses clichés surréalistes, ses collages et ses peintures. C'est à voir jusqu'à fin juillet. Et puis, pour compléter ce portrait, un livre tout aussi singulier qu'on doit au hasard d'un carnet d'adresses chiné sur eBay et à la curiosité et à l'opiniâtreté de celle qui a fait parler cet agenda. C'est vous. Bonjour Brigitte Benkemoun.
Bonjour Patrick.
Journaliste et écrivain, ancienne d'Europe 1 et donc propriétaire par hasard d'un répertoire de 1951 resté glissé dans un étui en cuir Hermès. Alors on va mettre fin au suspense, c'est le titre de votre livre. Je suis le carnet de Dora Maar chez Stock. Mais il vous a fallu 3 mois pour identifier celle qui avait écrit à l'encre marron Aragon, Opéra 55-65 ou Cocteau, Richelieu 55-72, des numéros de téléphone de l'époque, évidemment. Celui qui l'identifie, qui vous raconte l'histoire par la fin, en quelque sorte, il s'appelle Marcel Fless, c'est un marchand d'art, mais qui vous parle d'une vieille femme horrible.
Donc c'est Marcel Fless en effet qui m'a authentifié ce carnet. Moi j'avais réussi toute seule à savoir que c'était le sien grâce à architecte Ménerbe qui m'avait permis d'arriver à ce petit village du Luberon et savoir que c'était forcément quelqu'un qui y avait eu une maison.
Ménerbe, mais ça, c'est la maison que lui a offert Picasso.
Voilà, Ménerbe dans le Luberon. Et donc je découvre très vite qu'un de ses galeristes, son dernier galeriste, vit encore et je le contacte. Et Marcel Fless m'authentifie ce carnet et me raconte comment, en 1990, il arrive par hasard à elle parce qu'il a acheté un certain nombre de ses tableaux. Il la rencontre et il organise sa dernière exposition. Et de fil en aiguille, il arrive à la convaincre de lui vendre un certain nombre de photos. Donc, il va chez elle. Là, il découvre une vieille dame qui vit dans un désordre indescriptible, un capharnaüm, disait-il. Et il arrive à négocier les photos. Elle accepte le prix qu'il lui propose, mais en lui faisant jurer qu'il n'est pas juif. Et puis, sur l'étagère de sa bibliothèque, il aperçoit Mein Kampf. Donc, tout ça est assez lourd. Et moi, quand je découvre à la fois que j'ai le carnet de Dora Maar, mais qu'en même temps, cette femme qui a été l'égérie des surréalistes, qui a été une militante d'extrême-gauche, l'amie d'Éluard, militante antifasciste,
a fini antisémite et homophobe.
C'est un vrai défi à relever. Est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut chercher sur une femme pour laquelle on n'a pas a priori beaucoup de sympathie? J'étais tellement tentée, évidemment, par ce carnet et par le monde qui était le sien, qu'évidemment, je n'ai pas hésité.
Elle avait commencé à s'isoler, à se couper du monde dès les années 50 et à se réfugier dans la religion. Dora Maar, donc, née Theodora Markovitch, compagne de Picasso pendant près de 10 ans, de 36 à 45, compagne et voisine, elle, rue de Savoie, dans l'atelier où elle a fini sa vie, lui, rue des Grands Augustins, dans cet atelier bien connu, photographe, reconnu pour la mode, pour la publicité, pour ses clichés surréalistes. Il faut voir d'ailleurs ce qui est exposé en ce moment au Centre Pompidou.
Formidable.
C'est extraordinaire, le portrait du Père Ubu, par exemple, des clichés étonnants. La rencontre avec Picasso au Café des Deux Magots, c'est une scène de film, il faut la raconter.
C'est une scène de film, elle pourrait avoir été inventée, et pourtant, comme il y a plusieurs témoins, elle s'est réellement produite. Donc en fait, Dora Maar, c'est une jeune fille extrêmement ambitieuse quand elle étudie aux arts décoratifs, et puis elle a très vite du succès comme photographe. Quand elle rencontre Picasso, elle n'a pas 30 ans, mais c'est une femme reconnue, qui est plus célèbre que Cartier-Bresson, qui est pourtant son amie des arts décoratifs. Et elle est très ambitieuse, elle a décidé de séduire Picasso.
De se faire remarquer.
De se faire remarquer pour commencer.
Avec quelque chose de très spectaculaire aux Deux Magots.
Alors, je ne sais pas si une femme vous a déjà essayé de vous séduire comme ça, mais enfin c'est particulier. Elle s'installe aux Deux Magots. Picasso arrive parce qu'Éluard doit être dans la combine et Éluard amène Picasso. Elle voit Picasso qui s'assied à côté d'elle. Elle enlève son gant. Elle a des gants noirs avec des petites fleurs. Elle sort un petit canif de son sac et elle se met à planter le canif entre ses doigts, si près que les doigts finissent par saigner.
De façon très rapide.
De façon extrêmement rapide.
Donc spectaculaire.
Et Picasso est évidemment hypnotisé par ce spectacle qui peut-être lui rappelle un peu le tauromachie, parce qu'il y a quelque chose quand même du jeu, du couteau et du risque d'y laisser sa peau. Et puis quand elle a fini, le spectacle est terminé, elle renfile son gant. Picasso subjugué se contente ce soir-là de lui demander le gant. Il repart avec le gant taché du sang de Dorama.
Qu'il va exposer d'ailleurs. Hein.
Qu'il expose dans une petite vitrine chez lui, rue de la Boétie.
Ouais,
c'est la première rencontre réelle. En fait, elle l'a déjà croisé avant, mais ouais. Lui n'a pas fait attention. Là, cette fois-ci, il ne l'oublie pas.
C'est Picasso qui va l'initier à la peinture.
Elle a fait des études de peinture avant de devenir photographe, mais elle est une photographe extrêmement reconnue dans la pub, la mode. Et vivre avec Picasso... Certains affirment que Picasso l'aurait forcé à arrêter la photographie. C'est pas une femme qu'on force à faire quelque chose. En revanche, c'est une femme qu'on influence. Et je pense que vivre avec Picasso, on n'en sort pas indemne. Et notamment, il y a cette période assez dingue où elle accompagne la création de Guernica au jour le jour parce qu'elle a une commande pour faire des photos de Picasso en train de peindre Guernica. Il l'a peint en un mois. Elle sort de ce mois. Elle n'a plus du tout envie d'être photographe. Elle veut devenir peintre. On raconte qu'elle a d'ailleurs mis quelques touches de peinture grise sur le cheval de Guernica.
Voilà votre livre, Brigitte Benkemoun, bourré d'histoires passionnantes et fascinantes. Mais au fond, l'image qu'on a de Dora Maar, femme qui ne se remet pas de la rupture amoureuse avec Picasso, vous la confortez dans ce livre.
Elle s'en remet pas. Elle, jusqu'à la fin de sa vie, quand on lui disait qu'elle avait été la maîtresse de Picasso, elle disait non, j'ai pas été sa maîtresse, il a été mon maître.
Dora Maar, je suis le carnet de Dora Maar par Brigitte Benkemoun chez Stock. Merci d'être venue nous en parler.
Merci.
Retrouvez C'est arrivé demain, tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.